Chapitre 5. En rentrant à l'agence, Tony fut soulagé de la trouver déserte, en dehors de Mrs. Friedman, à qui elle demanda conseil. « Mrs. Friedman, j'ai averti Agatha que je démissionnais dans un mois. Est-ce qu'il faut que je le fasse par écrit ?»«
Aïe ! Si elle est au courant, je ne pense pas qu'il faille vous donner cette peine. Où irez-vous »«
Sans doute dans une autre agence de détective, ou alors dans la police ?»«
Aucune agence n'égale celle-ci !» fit remarquer Mrs. Friedman en regardant Tony par-dessus ses lunettes. « Si vous en intégrez une plus modeste, vous serez le larbin de service, vu votre jeune âge. La police, on va vous envoyer en formation à Hendon ou je ne sais où. Vous serez peut-être refusé à cause de votre couleur.
Quoi ?»«
C'est arrivé à un de mes neveux. La police de Gloucester doit embaucher un quota d'Asiatiques, de Jamaïcains et ainsi de suite. Ils appellent ça la diversité ethnique. » Mon neveu travaille pour la police des transports à Londres maintenant. Même si vous obteniez un poste ici, ne croyez pas que les policiers sont tous comme Bill Wong. C'est une bande de machos, voilà la vérité. Si vous les tenez à distance, ils vous traiteront de lesbienne et mettront des saletés dans votre casier.
Mrs. Friedman, je pense que votre loyauté envers Agatha vous pousse à inventer un tas de choses.
Oui, la loyauté est une grande qualité, conclut Mrs. Friedman.
Sur ce, elle remonta ses lunettes sur son petit nez et se remit à taper.
Agatha appela Tony pour l'informer qu'elle était avec Amy Richards et lui donner rendez-vous sur la place. Même si elle n'avait pas besoin de la jeune femme, elle était déterminée à faire appel à elle chaque fois que quelque chose d'important semblait se produire, dans l'espoir que Tony reviendrait sur sa démission.
« Où est-ce qu'on va ? » demanda Tony, tout essoufflé, en montant à l'arrière de la voiture d'Agatha.
« À la banque Mercer & General », répondit Agatha avant de lui expliquer brièvement de quoi il retournait. La banque était flanquée de deux commerces définitivement fermés. «
Encore des entreprises qui ont fait faillite », pensa Agatha.
« Les grandes rues des centres-villes agonisent parce que nous sommes devenus paresseux et que nous préférons faire toutes nos courses en une seule fois dans l'un des gros supermarchés de la périphérie. Mais c'était aussi la faute aux autorités locales qui avaient une forte tendance à transformer ces rues en zones piétonnes, puis à fixer des tarifs exorbitants pour le parking le plus proche. Plus personne ne voulait marcher en trimballant de gros sacs de courses de petit magasin en petit magasin. » Peut-être que les rues des centres-villes finiraient par devenir des musées où défileraient des figurants en costume du XXe siècle.
Elles descendirent de voiture et entrèrent dans la banque où Agatha demanda à voir le directeur. On les pria d'attendre. La neige se mit à tomber légèrement sur les hautes fenêtres. « J'aurais dû acheter des pneus neige », déplora intérieurement Agatha. « Mais il mettrait tellement de temps à arriver au garage. Et le printemps ne va sûrement pas tarder. »
Enfin, on les appela dans le bureau du directeur, un homme petit, dégarni et chichiteux.
Après qu'Amy eut expliqué la raison de sa visite, il examina le testament, le passeport et la clé avec une lenteur exaspérante, secouant la tête de temps à autre en murmurant
« Mon Dieu, mon Dieu !»
Agatha, qui s'était péniblement efforcée de se montrer tolérante, éclata.
« Quoi ? Qu'est-ce qui vous prend si longtemps ? Combien de temps sommes-nous censés rester assis ici pendant que vous tergiversez ?»
« Je dois vérifier !»
répondit l'autre avec humeur et un accent écossais.
« Il y a beaucoup de gens méchants, très méchants, ah oui !»«
Vous n'êtes pas d'Ostermurchie ou un de ces bleds paumés par hasard ?»«
Je suis de Stornoway et fier de l'être. Je vais demander à Gladys de vous conduire à la salle des coffres. »
Il appuya sur le bouton d'un interphone. Une blonde, si pâle qu'on aurait cru qu'elle avait été trempée dans l'eau de Javel, pria Agatha, Amy et Tony de les suivre. Elles descendirent dans un sous-sol énorme et sombre. À l'aide de deux clés différentes, Gladys ouvrit l'une des portes.
« Quel est le numéro du coffre ? » demanda-t-elle.
« Je ne sais pas, » gémit Amy. Retour au rez-de-chaussée pour attendre le directeur Mr. McLeod, puis force atermoiement et signature de formulaire pour qu'enfin le numéro leur soit divulgué. Le fantôme blafard de Gladys refit son apparition pour les reconduire dans l'abîme.
« Vous n'aurez qu'à fermer la porte extérieure derrière vous en partant, » dit-elle. « Elle se verrouillera automatiquement. »
Elle sortit le coffre, le déposa sur une table métallique au milieu de la pièce et les laissa. Agatha tira trois paires de gants en latex de son sac et demanda à ses comparses de les enfiler.
« Tenez, à vous d'ouvrir, »
dit Amy en lui tendant la clé. Agatha fit jouer la clé dans la serrure et souleva le couvercle. Les trois femmes contemplèrent le contenu bouche bée.
Il y avait 4 passeports, chacun a un nom différent, mais portant tous la photo du défunt Gary Beach. Un caleçon qu'Agatha déroula enveloppait un petit pistolet. À part ça, il ne restait dans le coffre qu'un petit sac en cuir fermé par un cordon que Tony fit coulisser. Elle examina l'intérieur, puis répandit une partie du contenu dans la paume de sa main.
« Des cailloux !» constata Amy avec amertume. « Qu'est-ce qui lui a pris de mettre de vilains petits cailloux dans un coffre à la banque ?»«
Attendez !» s'écria Tony avec enthousiasme. « Je pense que ce sont des diamants non taillés. J'ai vu une émission sur les diamants. C'est à ça qu'ils ressemblent à l'état brut. Il vaut mieux les apporter à la police. Ce sont peut-être des diamants de sang. »«
Qu'est-ce que vous racontez ?» s'énerva Agatha, oubliant qu'elle avait décidé d'être toute gentillesse et légèreté avec Tony en toutes circonstances.
Les diamants de conflit ou diamants de sang servent à financer des groupes rebelles dans des pays comme la Sierra Leone ou l'Angola.
Mais pourquoi est-ce qu'un flic de campagne se retrouverait mêlé à des événements qui se passent en Afrique ?
Demanda Agatha.
Pour rien, sans doute, répondit Tony. Il les a peut-être reçus en paiement d'une activité criminelle. Il vaut mieux qu'on apporte tout ça à la police.
On est obligé ? Demanda Amy. Après tout, je pourrais les faire polir par un ami joaillier ?
Non. Répondit Agatha avec fermeté. Il faut que la police les examine.
Le regard d'Amy se fit tout à coup aussi dur que les diamants non taillés.
D'abord, ils sont à moi, ok? Je les prends, point barre.
Il faudra tout de même avertir la police, dit Tony.
Vous ne tenez pas beaucoup à la vie, hein?
Lança Amy en ricanant.
Vous saviez depuis le début ce que Gary magouillait, s'exclama Agatha. Allez, parlez! « Allez vous faire foutre! Vous êtes viré !»
Amy fit glisser le contenu du coffre dans son volumineux sac à main et sortit d'un pas déterminé.
« Bon !» fit Agatha tandis que son ex-cliente faisait signe à un taxi devant la banque. « On ferait mieux d'aller au commissariat. »«
Je pense plutôt qu'on devrait la suivre, » suggéra Tony.
« Pourquoi ? Elle a fait un mariage confortable, son mari est riche. »
« À mon avis, elle l'a épousé uniquement pour son argent et elle a quand même l'air un peu salaud. »
Agatha s'apprêtait à discuter, mais se souvint à temps ce qui faisait la valeur de Tony en tant qu'enquêtrice, c'était sa vision souvent claire et pratique des situations.
« D'accord, » céda-t-elle. « Voyons ce qu'elle va faire. »
Mais lorsqu'elles arrivèrent chez Amy, sa voiture n'était pas là et la maison donnait l'impression d'être vide. Après une heure d'attente, Tony déclara.
« Après tout, allons au commissariat, je parie qu'elle va éviter son mari. »
Quand elle quitta enfin le commissariat et déposa Tony chez elle, Agatha en avait par-dessus la tête des interrogatoires. Du sel ayant été livré de l'étranger, les camions de sablage avaient repris du service, ce qui lui permit de regagner son cottage sans glisser sur la chaussée. Un mot de Charles l'attendait sur la table de la cuisine. « Je ne supporte pas ce temps infect, suis parti dans le sud de la France, bise Charles. » Agatha, toujours préoccupée par Tony, se sentit seule. Elle appela le presbytère, mais apprit que Mrs. Bluxby rendait visite à un parent à Bexhill dans le Sussex. Elle téléphona alors à Roy Silver pour savoir s'il n'aurait pas envie de venir la voir pendant le week-end, mais il répondit qu'il était invité à une fête tout simplement sensationnelle et n'était pas libre. Ses chats dormaient paisiblement, la maison semblait anormalement silencieuse.
Elle avait besoin d'action.
Il y avait un sac de boîtes de conserve vide par terre dans la cuisine, à côté d'un cageot de bouteilles vides. Les autorités locales avaient fourni des poubelles noires aux habitants pour y jeter ses déchets, mais les siennes avaient disparu. Elle décida d'aller les jeter dans les conteneurs spéciaux du supermarché Tesco de Stone-on-the-Wold. Puis, elle retirerait du liquide au distributeur. Il neigeait légèrement, mais ça semblait sur le point de s'arrêter. Une fine lune ronde commençait à se montrer derrière les nuages. Enseveli sous la neige, le village de Carsley baignait dans un profond silence. Elle consulta sa montre. Minuit à peine passé. Elle se gara à l'arrière du supermarché de Stone-on-the-Wold. Les bouteilles tombèrent dans les conteneurs avec un bruit satisfaisant de verre brisé. « Il doit y avoir un hooligan en chacun de nous », se dit Agatha. Puis elle jeta les boîtes de conserve. Elle roula ensuite avec précaution jusqu'au distributeur, cahotant sur les ornières de neige gelée. Les parkings des supermarchés étaient leur propriété et on lui avait dit que si les supermarchés dégageaient la neige et qu'un client venait à glisser et à tomber, il serait obligé de le dédommager. Mais si un client glissait sur un parking non dégagé, eh bien c'était sa putain de faute à lui. Elle se gara devant le distributeur. À côté, au-delà d'une file de chariots, se trouvaient deux manèges à pièces pour petits enfants.
L'un d'eux émettait régulièrement de pseudo-éclats de rire enfantins, mais à l'oreille d'Agatha, cela ressemblait plus au rire de lutin malveillant témoin des malheurs d'autrui. Elle retira son livre, qu'elle était en train de ranger dans son portefeuille, lorsque son regard tomba sur un tas de vêtements entre les deux petits manèges.
« Pourquoi ça tombe sur moi ?» se demanda-t-elle. « Si c'est un ivrogne qui cuve son vin, il va falloir que je trouve de l'aide pour ce pauvre bougre. »
Elle contourna la file de chariots, se pencha. Une couverture recouvrait complètement la forme humaine. Elle dégagea la tête. La lune éclairait la scène. Les voix d'enfants cauchemardesques gloussaient. Agatha contemplait le visage sans vie d'Amy Richards. Bien que le supermarché soit fermé, elle voyait des employés s'activer à remplir les rayons à l'intérieur. Elle tambourina sur les portes vitrées. Des têtes se tournèrent vers elle. Un vigile vint lui faire signe de partir. Elle sortit son calepin de son sac et écrivit en grosses lettres « Cadavre sur parking ».